Lors d'un match de qualification pour le Mondial en 2010, Julien Escudé, défenseur de l'équipe de France, marque le seul but roumain. Un but contre son camp. La pire erreur qu'un joueur de foot excité par le jeu puisse commettre est de se tromper de cage de but. Le prophète Jonas ne joue sans doute pas au foot, mais il ne veut pas non plus faire quoi que ce soit qui, selon lui, puisse nuire aux intérêts politiques et militaires d'Israël Nord, sa patrie. Pour cette raison, quand Dieu lui ordonne d'aller à Ninive pour prêcher la repentance aux Assyriens, il lui tourne le dos et fuit dans la direction opposée. Bien que le prophète de l'Éternel, ses convictions personnelles, soient tellement fortes qu'il ne change pas d'avis, même dans sa prière. Alors qu'il est dans le ventre du grand poisson, il dit « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce », ce qui est un grand coup de patte donné aux habitants de Ninive. En effet, les Assyriens, à qui Jonas a pour mission d'annoncer le jugement de Dieu, constituent la puissance montante du Moyen-Orient et une menace pour tous les petits États de Palestine, y compris le royaume israélite des 10 tribus du Nord. Jonas ne veut donc absolument pas avertir les habitants de Ninive du châtiment qu'ils encourent, car le pire pour lui serait qu'il réforme leur conduite et que l'Éternel les épargne. Il veut, et espère plutôt, que Dieu les détruira, mais ce qu'il craignait arrive. En effet, suite à sa prédication, les habitants de Ninive se repentent de leurs crimes et Dieu renonce à les juger. Ce dénouement heureux mais malheureux pour Jonas l'afflige tellement qu'il sombre dans la déprime et par dépit demande la mort. Le prophète de l'Éternel perd pied avec la réalité et se comporte aussi mal qu'un gosse colérique qui par caprice se jette par terre parce qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Jonas s'empêtre dans des contradictions parce qu'il n'est pas différent de la plupart des êtres humains, et même des croyants qui sont souvent inconstants. Cependant, l'Éternel n'abandonne pas son prophète pour autant et tente de le raisonner. Avec beaucoup de tact, il cherche à modifier l'image du monde de Jonas afin qu'il comprenne la compassion de Dieu envers tous les hommes. L'Éternel se conduit envers Jonas comme un père avec l'un de ses enfants, qui est de très mauvaise humeur et qu'il tente de raisonner et de cajoler. Cet épisode, qui a lieu à la fin du livre, ne manque pas d'humour. Et en même temps, il est encourageant pour chacun de nous parce qu'on y voit la compassion de Dieu en action. Le livre de Jonas donne plusieurs enseignements. D'abord, il faut remarquer que l'acteur principal n'est pas Jonas, mais l'Éternel, le Dieu souverain qui se manifeste comme tel. En effet, c'est lui qui a le premier et le dernier mot de l'histoire. Il donne deux fois le même ordre à son prophète, car il n'a pas changé d'avis entre-temps. Il crée une grosse tempête. Il envoie un gros poisson chercher Jonas pour le sauver de la noyade. Puis il dit au poisson de le vomir sur le rivage. C'est aussi Dieu qui menace Ninive d'un jugement, puis y renonce. C'est encore lui qui fait pousser une plante pour abriter son prophète, puis qui ordonne à un ver de la détruire. Enfin, c'est l'Éternel qui fait venir un vent brûlant pour incommoder Jonas. Comme son prophète refuse de lui obéir, l'Éternel mobilise la création pour venir à bout de son serviteur récalcitrant. Cette histoire montre que rien, ni personne, ne peut entraver le plan de Dieu. Même si tout d'abord Jonas refuse son ordre de mission, au final, il est bien obligé de courber l'échine devant l'Éternel et de lui obéir. Le message essentiel du livre est que Dieu veut faire grâce à tous les hommes et qu'il est prêt à pardonner à tous ceux qui se repentent de leurs mauvaises actions. Les Assyriens de Ninive méritent le châtiment qui les attend. mais parce qu'ils acceptent de s'humilier devant le Seigneur de toute la terre, ils sont épargnés. Cette histoire montre que Dieu porte un intérêt à tous les peuples et pas seulement aux descendants d'Abraham. Il veut sauver tous les êtres humains, indépendamment de leur race. Sur ce fond lumineux de la miséricorde divine qui embrasse tous les êtres humains, se détache cependant une figure sombre, celle de l'Israélite Jonas, qui accepte volontiers pour lui-même les soins délicats de la bonté, mais qui s'indigne à la pensée que des païens pourraient aussi devenir les objets de la grâce. Envisageant cette possibilité insupportable, Jonas se soustrait à la mission dont l'Éternel le charge. Et lorsqu'il voit son pressentiment se réaliser, il ose tenir tête à l'Éternel et repousse hardiment la leçon, pourtant pleine de douceur, que lui donne son Dieu. Mais ce qu'il y a de plus étonnant est que ce violent conflit entre la perspective nationaliste juive et la grâce de Dieu est mis sur le compte, non d'un simple membre du peuple israélite, mais d'un serviteur de Dieu, l'un de ces hommes extraordinaires qui constituent l'ordre des prophètes, l'un de ceux qui, dans l'Ancien Testament, sont les interprètes des desseins de Dieu. En raison de l'alliance entre l'Éternel et Abraham, les Israélites se considèrent comme dépositaires de la grâce divine, les seuls pouvant bénéficier de sa miséricorde. Après s'être ainsi approprié le monopole de la grâce, ils vouent tous les non-juifs au jugement. La conclusion qui s'impose est que les descendants d'Isaac et de Jacob se croient supérieurs aux autres, un peu comme les Allemands des années 30 qui prônent la race aryenne. Heureusement, il semble que par la suite, Jonas se soit repenti de son attitude suffisante et, en relatant son histoire, il cherche à combattre la fâcheuse tendance chauvinisme et même intégriste de son peuple. Voilà la grande leçon que ce livre est destiné à donner au peuple élu. Jonas n'est pas le seul à montrer l'universalité du salut. Le prophète Ésaïe écrit « L'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit la Syrie, mon œuvre, et Israël qui m'appartient. » En même temps, Ésaïe présente Israël comme le serviteur de l'Éternel, sourd et aveugle. Tout au long de son histoire, le peuple choisi refuse d'accepter la pensée de son Dieu et de s'y associer. En résistant au plan divin, Israël finit par se faire exclure du salut auquel il ne veut pas voir participer les non-juifs. Ce sentiment amer qu'Israël éprouve à l'égard de la miséricorde divine envers le monde païen n'a fait que s'accentuer au cours des siècles. C'est cet esprit méchant, illustré par les pharisiens, qui crucifia Jésus, lapida Étienne, persécuta l'apôtre Paul, établit une scission entre l'Église et le judaïsme du premier siècle, et entraîna finalement la ruine de la nation d'Israël. Comme je l'ai déjà dit, si Jonas ne veut pas accomplir sa mission, ce n'est pas par manque de courage, mais par zèle nationaliste, parce qu'il craint que l'Éternel épargne les Assyriens du châtiment. Lui, qui a prophétisé les conquêtes militaires victorieuses d'Israël Nord, sa patrie, il aurait voulu voir Dieu réduire en cendres la capitale de la principale puissance ennemie de son peuple. Le pardon que l'Éternel accorde aux habitants de Ninive enseigne que ce sont des créatures de Dieu et qu'à ce titre, il est compréhensible que leur Créateur ait de la compassion pour eux, surtout quand ils considèrent qu'ils réagissent beaucoup mieux à la prédication de Jonas que les Israélites ne l'auraient fait en pareille circonstance. Mais cette miséricorde que Dieu attend des Assyriens n'est absolument pas du goût de Jonas, qui se lamente et dit « Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » La proclamation que Dieu est plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, est l'une des confessions de foi d'Israël qu'on retrouve en plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Par contre, Jonas ajoute aussi que Dieu renonce aux menaces qu'il profère, une affirmation qui n'apparaît qu'une autre fois dans l'Ancien Testament chez le prophète Joël. L'idée comme quoi l'Éternel est le Dieu de tous les êtres humains, et pas seulement des Hébreux, se retrouve tout au long du livre de Jonas. Le lecteur juif, qui est naturellement nationaliste et patriote, est amené à réfléchir et à condamner l'attitude sectaire de Jonas. Quand le navire sur lequel Jonas fuit Dieu est sur le point de sombrer, les matelots l'interrogent sur son identité. Alors, c'est fier comme un coq, et avec une attitude de supérieur qu'il annonce ses couleurs et leur dit « Je suis hébreu, et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Cette confession de foi rappelle que l'Éternel n'est pas une simple divinité locale, comme celle qu'adorent les païens. Cependant, quand Jonas affirme ainsi sa foi, il ne mesure pas les implications de ses paroles, car si l'Éternel a créé la terre et le ciel, il est forcément aussi le Dieu de toute la terre et donc de Ninive. Il est donc logique qu'il manifeste sa bienveillance envers ses habitants et donc qu'il leur envoie un prophète, en l'occurrence Jonas. Cet enseignement est exprimé par les paroles des Juifs croyants qui, après avoir écouté l'incident de Pierre chez Corneille, disent « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » La deuxième confession de foi qui sort de la bouche du prophète est celle de l'amour, la grâce, la compassion et le désir de pardonner de l'Éternel. Et c'est bien parce que Jonas en a saisi toute la portée, c'est-à-dire que cette miséricorde s'applique aussi aux gens de Ninive, qu'ils s'enfuient à toutes jambes, ou plutôt, toute voile dehors, aussi loin que possible de l'endroit où il a l'ordre de se rendre. L'idée, comme quoi l'Éternel se préoccupe de tous les peuples, est une vérité cardinale et l'un des fils conducteurs de l'Ancien Testament. Le livre de Jonas rappelle aux Israélites qu'ils ne sont pas le peuple élu uniquement pour eux-mêmes, mais qu'ils ont une vocation missionnaire. En effet, dès l'origine, Dieu a choisi Abraham et ses descendants afin que, par leur intermédiaire, toutes les nations de la terre soient bénies. L'Éternel l'affirme clairement quand il dit au patriarche « Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi ». La prostituée païenne, Rahab, et la Moabite Ruth ont leur place dans la généalogie de Jésus-Christ parce qu'elles sont crues au Dieu d'Abraham. Le prophète Élie est envoyé par Dieu chez une veuve phénicienne afin qu'elle puisse survivre à une famine. Et le prophète Élisée guérit de sa lèpre le général syrien Naaman. Jésus rappelle ces histoires à ses contemporains parce qu'il veut qu'ils comprennent que parfois Dieu choisit d'étendre sa compassion aux païens plutôt qu'aux Israélites. Ceux qui l'écoutent ont très bien compris le message et le résultat ne se fait pas attendre puisqu'ils essayent de tuer le Seigneur. À l'époque de Jonas, le prophète Amos annonce déjà qu'un petit reste des nations sera sauvé et incorporé au peuple de Dieu. Le message d'Amos est confirmé par tous les prophètes qui le suivent. Non seulement l'Éternel est le Dieu de tous les hommes, mais il est aussi celui de toute la création. À la fin du livre, on lit que Dieu se préoccupe même des animaux, ce qui renforce encore davantage le message du livre de la souveraineté de Dieu sur toutes les créatures et sur les éléments naturels. L'idée que l'Éternel est le Dieu de tous les hommes a son aboutissement dans le Nouveau Testament, où le peuple de Dieu inclut des gens de toutes les nations afin qu'ils bénéficient du salut d'abord promis à Israël. L'attitude de Jésus est à l'opposé de celle de Jonas, car le Seigneur accueille et offre le salut à tous, à la Samaritaine, à la femme adultère, aux prostituées, aux collecteurs d'impôts détestés par les Juifs et à tous les pécheurs notoires. Jésus utilise aussi l'histoire de Jonas pour annoncer sa résurrection en comparant son séjour dans le tombeau aux 3 jours et 3 nuits que le prophète Jonas passe dans le ventre du grand poisson. C'est ce qu'il qualifie de signe de Jonas. Le sort qui sera accordé à des gens qui ne sont pas disposés à croire, mais qui réclament un miracle prouvant l'origine divine de la mission de Jésus. Pour dénoncer cette incrédulité et en énoncer les conséquences, Jésus fait aussi référence aux habitants de Ninive qui changent de comportement en réponse à la prédication de Jonas, alors que les gens de son temps refusent son message. Le livre de Jonas est donc riche d'enseignements. Il préfigure la mort et la résurrection de Jésus et rappelle que la miséricorde divine s'étend à tous les peuples, ce que Jonas lui-même reconnaît, même si c'est à contre-cœur. Cette compassion de Dieu explique pourquoi. Il ne rejette pas ceux qui sont infidèles d'un grand revers de main, comme le dit l'apôtre Paul dans sa seconde lettre à Timothée. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Dans une équipe de foot, il y a beaucoup de joueurs qui portent l'uniforme et qui ne jouent pas. Seuls ceux qui sont jugés aptes à contribuer à la victoire sont sur le terrain, tandis que les autres restent sur la touche ou dans les gradins. Avec Dieu, c'est pareil. Je peux lui appartenir et faire partie de son équipe sans pour autant avoir un rôle de joueur dans son plan parce que je ne me soumets pas à sa volonté. Quant au plan du livre de Jonas, il coule de source. Le premier chapitre raconte sa mission, sa désobéissance et sa punition. Le second raconte sa prière et son retour sur la terre ferme après avoir été vomi par le poisson. À ce point du récit, Jonas n'a strictement rien accompli, sinon attiré beaucoup d'ennuis pour finalement se retrouver à la case départ. Au 3e chapitre, il accomplit enfin sa mission, qui est couronnée de succès, du moins selon la perspective divine. Mais Jonas en est malade et déprime. Alors Dieu lui explique gentiment en quoi sa vision du monde est erronée. Puis, le livre se termine un peu en queue de poisson, ce qui, pourrait-on dire, semble tout à fait approprié. Je commence à le lire. Maintenant, l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amathaï, en ces termes. En hébreu, la prophétie de Jonas commence par une préposition qui, selon le contexte, est traduite par « est » ou « ou maintenant ». À cause de ce début un peu brusque, on pourrait penser que ce petit livre fait partie d'une œuvre plus importante. Mais en réalité, ce démarrage sur les chapeaux de roue est une formule courante qui lie l'ensemble des révélations qui font partie de l'histoire d'Israël. Cette préposition est aussi le premier mot de 5 autres livres de l'Ancien Testament, dans Josué, Juges, 1 Samuel, Esther et Ézéchiel. Jonas, dont le nom signifie colombe, est mentionné dans le 2 livre des rois de l'Ancien Testament, parce qu'il exerce un ministère prophétique dès le début du règne de Jéroboam II. Je continue le texte. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. On retrouve la même formule. Mets-toi en route et va, quand l'Éternel ordonne au prophète Élie de se rendre à Sarepta, une ville païenne de Phénicie. Ici, Jonas doit lui aussi aller en terre étrangère, mais c'est pour proclamer une menace aux habitants de Ninive, qui est la capitale administrative de l'Empire assyrien, la grande puissance de l'époque. Les Assyriens sont issus d'Assur, second fils de Sem et petit-fils de Noé. Alors qu'il existe beaucoup d'exemples de prophéties qui menacent des peuples païens, elles ne sont prononcées qu'en Israël. Jonas est le seul prophète qui est envoyé en personne pour annoncer une menace et un message menaçant à des païens. Ninive est située sur la rive orientale du fleuve Tibre, en face de l'actuelle ville de Moussoul, à 900 km de Samarie, capitale du royaume israélite des 10 tribus du Nord, dont Jonas fait partie. Ninive est appelée Grande, et d'après certains historiens antiques, elle est effectivement plus importante que Babylone, qui se trouve à 450 km plus au sud. Le mot « grand » apparaît souvent dans le livre de Jonas. Ninive est appelée Grande trois fois, au début de chacune des deux parties principales du livre et à la fin de la deuxième partie. Il est aussi question d'un grand vent, d'une grande tempête, des matelots qui sont saisis d'une grande crainte, un grand poisson, du grand nombre au plus petit, le roi de ces grands. Enfin, Jonas éprouve tour à tour un grand dépit, puis une grande joie. Le voyage que Jonas doit entreprendre n'est pas une simple promenade. Il va durer au moins un mois, parce qu'à cette époque, on ne fait pas plus de 30 km par jour. L'Éternel veut punir Ninive, parce que les Assyriens sont des guerriers à la cruauté légendaire qui sèment la terreur partout où ils vont. Leur coutume est de garder les belles jeunes femmes et de massacrer les autres, ainsi que les hommes et les enfants. Le prophète Nahum écrit de Ninive. « Malheur à toi, ô ville, qui te repaît de sang, ville où tout n'est que fraude et extorsion, qui ne met pas de terme à toutes ces rapines. » De plus, Ninive est très idolâtre, avec des temples dédiés à plusieurs divinités. Quand on ajoute à cet art l'orgueil et la concupiscence des Assyriens, ont décidément tout pour plaire et pourtant, au lieu de simplement les effacer de la surface de la terre, l'Éternel désire qu'ils se repentent afin qu'ils n'aient pas à les juger. Dieu n'a pas changé. Le prophète Ézéchiel écrit « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. » Et dans le livre des Actes, on lit que l'apôtre Paul dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts.